Au chapitre 12, on va lire à partir du verset 23. Au travers de ce texte, j'aimerais faire un parallèle, ou si vous préférez, allez, on va le voir ensemble tout à l'heure, mais faire ressortir les qualités que nous devons avoir au travers de ces quelques hommes dont il va être question et dans la lecture de ce texte, des qualités que nous devons en avoir. Bien sûr, nous avons des défauts, nous en aurons toujours, hein, parce que nous ne serons jamais parfaits ici-bas, mais il y a des qualités qui doivent ressortir chez nous. Et c'est ce que l'on va voir tout simplement avec ce support que va nous servir ce texte. 1 Chronique, chapitre 12, verset 23. Voici le nombre des hommes armés pour la guerre qui se rendirent auprès de David à Hébron afin de lui transférer la royauté de Saül selon l'ordre de l'Éternel. Fils de Juda, portant le bouclier et la lance, 6 800 armés pour la guerre. Des filles de Siméon, hommes vaillants à la guerre, 7 100, des fils de Lévi, 4 600, et Jojada, prince d'Aaron, et avec lui 3 700, et Tsadok, vaillant jeune homme, et la maison de son père, 22 chefs, des fils de Benjamin, frère de Saül, 3 000, car jusqu'alors, la plus grande partie d'entre eux était restée fidèle à la maison de Saül, des fils d'Éphraïm, 28 100, hommes vaillants, gens de renom, d'après les maisons de leur père, de la demi-tribu de Manassé, 18 000, qui furent nominativement désignés pour aller établir roi David. Des fils d'Issacar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs, et tous leurs frères sous leurs ordres. De Zabulon, 50 000, en état d'aller à l'armée, munis pour le combat de toutes les armes de guerre, et prêts à livrer bataille d'un cœur résolu. De Nephtali, 1000 chefs, et avec eux 37 000, portant le bouclier et la lance. Des Danites, armés pour la guerre, 28 600. D'Azer, en état d'aller à l'armée, et prêt à combattre, 40 000. Et de l'autre côté du Jourdain, des Rubénites, des Gadites, et de la demi-tribu de Manassé, avec toutes les armes de guerre, 120 000. Tous ces hommes, gens de guerre, prêts à combattre, arrivèrent à Hébron, en sincérité de cœur, pour établir David roi sur tout Israël. Et tout le reste d'Israël était également unanime pour faire régner David. Ils furent là 3 jours avec David, mangeant et buvant, car leurs frères leur avaient préparé des vivres. Et même ceux qui habitaient près d'eux, jusqu'à Issacar, à Zabulon, à Nephtali, apportaient des aliments sur des ânes, sur des chameaux, sur des mulets et sur des bœufs, des mets de farine, des masses de figues sèches et de raisins secs, du vin, de l'huile, des bœufs et des brebis en abondance, car Israël était dans la joie. Amen. Après la mort de Saül, David régna sur la tribu de Juda pendant 7 ans et demi. Les autres tribus, nous l'avons entendu, nous l'avons compris, et bien, pour ceux qui lisent la parole de Dieu, vous le savez, sont restés fidèles à la dynastie de Saül. Ils pensaient qu'un fils allait régner. Alors, il y a eu la guerre civile, parce que quand il y a conflit, quand il y a opposition, ça finit par la guerre. Puis, toutes les tribus d'Israël se sont rassemblées à Hébron afin d'établir David roi sur tout le peuple de Dieu. David va régner en plus 33 ans, portant ainsi la totalité de son règne à 40 ans et demi. En tout cas, le plan de Dieu s'est réalisé, tout simplement, parfaitement, mais... une quinzaine d'années après que justement, ce jeune berger ait reçu cet appel, cette onction, la promesse finalement de la royauté qui allait venir pour lui. Alors, au travers de cette méditation, j'aimerais faire un parallèle suivant. C'est David, on va dire que c'est le type de Jésus. Le peuple élu de l'ancienne alliance représente celui d'aujourd'hui, la nouvelle alliance, à savoir l'Église. Amen. Et l'Église a des promesses, nous allons voir que c'est important pour y entrer, d'avoir certaines qualités. Nous allons considérer donc, les qualités de ces hommes de guerre, des différentes tribus, et réaliser qu'elles doivent faire partie de la vie de tout disciple. Vous savez, le disciple, c'est l'élève du grand maître. Et le grand maître, c'est le Seigneur. Amen. Donc, si nous voulons être à la hauteur, il va falloir que ces qualités fassent partie intégrante de notre vie. En tout cas, Jésus invite, nous le savons, chaque humain à entrer dans le salut par la foi. Amen. La repentance sincère, nous savons qu'elle est suivie du pardon des péchés. Une vie nouvelle va s'installer et se développer par l'action puissante du Saint-Esprit. Amen. Nous avons besoin, nous l'avons chanté, hein, le Saint-Esprit est là, tout peut arriver. On a besoin de l'action du Saint-Esprit. Le Seigneur également a des projets pour nous, projets de paix, amen, projets de restauration, projets de guérison pour tous, bien sûr. Et lorsque Jésus est présent dans une vie, dans un cas, voilà que lui, il déploie ses multiples bienfaits. L'amour, un de ses premiers bienfaits, ressentir l'amour. Quand on n'a jamais été aimé, quand on ne sait pas ce que c'est que l'amour, quand on ne sait pas aimer aussi, tout d'un coup ressentir l'amour d'en haut, l'amour divin. Sa présence, notre présence continuelle, il est là tous les jours. Amen. Puis son soutien, son réconfort, sa consolation, enfin, tant de choses pour lesquelles nous sommes quelque part des gens bénis. Amen. Les plus bénis de la terre, c'est nous. Gloire à Dieu. Alors la Bible évoque le cas de croyants qui sont entrés dans le salut tout en conservant leur mauvaise tendance. Hein, leur vieille nature est restée active parce qu'ils n'y ont pas renoncé. Et puis c'est terrible parce que cette vie chrétienne est fragile. Elle doit être faite d'écueils. Hein. C'est l'exemple par exemple des croyants de Corinthe. Ils manifestaient, c'est-à-dire à tour de bras, les œuvres de la chair. Ils avaient un manque de maturité spirituelle. Ils étaient animés par certains sentiments. Je parle de la jalousie, mais oui, c'est cela. Il y avait donc des disputes au milieu d'eux. On y a trouvé également des dérèglements. J'ai noté l'impureté spirituelle, mais c'est cela. Hein, il y avait l'orgueil. Et bien sûr, quand c'est comme ça, comment progresser? C'est plutôt une régression. Et sur le plan spirituel, c'était une régression. Ça finit par des discordes, des divisions, de l'animosité, des médisants, de la calomnie. Enfin, un manque réel de qualité que Dieu doit trouver chez nous. Hein. Amen. La repentance également. Quand on s'est trompé, il faut le reconnaître. Quand on a fait du mal, il faut le reconnaître et puis demander pardon. Hein. Et puis quand on le fait, qu'est-ce qu'on est bien? Non, ça ne vous est pas arrivé? J'espère que ça vous est arrivé. Hein. Parce que sinon, ça veut dire que vous êtes infaillible, vous ne vous trompez jamais. Vous ne blessez jamais. Mais si, c'est important, hein, il faut le faire. Alors cependant, pour revenir aux hommes de David, il convient de remarquer l'élément suivant. Ils ne se sont pas rendus vers David pour lui demander des faveurs ou des bienfaits, mais ils sont allés à sa rencontre pour l'instituer roi sur leur tribu, donc sur leur vie. Ça veut dire règne sur nous, règne sur ma maison, amen, règne sur le peuple, c'est ça. Alors cette démarche, elle doit être également présente dans le cœur de tout croyant. Il s'agit non seulement d'inviter Jésus à devenir notre sauveur, amen, mais aussi il faut l'établir comme roi et comme le Seigneur de notre vie. Est-ce qu'il règne le Seigneur? Ou est-ce qu'il y a certaines parties de notre vie où on dit Seigneur, ça, propriété privée, défense d'entrée. Il doit régner. Ça consiste finalement à permettre au Fils de Dieu d'être le maître de notre existence. Amen. Il s'agit ici, bien sûr, du disciple qui ne vit pas uniquement pour être béni, mais pour se donner totalement, ne rien garder pour soi, devenir également son serviteur, dans une relation de foi et d'amour. Amen. Je ne fais pas parce que je sais que je vais recevoir. Mais je fais parce que j'aime le Seigneur. Si je reçois, gloire à Dieu. Mais si je ne reçois bien, gloire à Dieu quand même. Amen. Alors ce désir d'expérimenter cette qualité de vie divine, elle nécessite ce qu'on appelle la mort à soi-même, c'est-à-dire le renoncement. Il faut que je meure à moi-même, que le vieil homme meure, qu'il disparaisse. Il faut lui couper la tête. Hein? Eh oui. Alors la vieille nature, elle doit être crucifiée, afin qu'elle ne dirige plus, qu'elle ne domine plus, qu'elle ne manifeste pas le bout de son nez, vous savez. Non, pas du tout. Paul dit, et j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Et puis il rajoute, c'est Galates 5:24, si nous vivons par l'Esprit, eh bien marchons aussi selon l'Esprit. Amen. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. La première partie, c'est des Galates 2:20, et là, Galates 5:24. En tout cas, le disciple, puisque nous sommes nous aussi des disciples, donc nous devons, eh bien, abandonner volontairement tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Tout ce qui, finalement, va nous écarter du parcours prévu par le Seigneur, la route tracée pour notre vie. Tout ce qui également ne va pas, on va faire en sorte que nous ne serons pas en harmonie avec l'Écriture, avec la sainteté attendue par le Seigneur. Il va falloir abandonner ces choses, les faire disparaître. Amen. Alors dans ces conditions, oui, la nouvelle nature, celle qui vient d'en haut, celle qui vient de Jésus, elle va pouvoir se développer, elle va pouvoir croître par l'assistance, bien sûr, de l'Esprit, hein, dans notre cœur, l'Esprit de Dieu. La vieille nature, bien que présente, mais elle ne va plus dominer. Vous voyez ? Elle ne va pas avoir le dernier mot. Non, non. Et c'est là que le chrétien va expérimenter ce qu'on appelle la vraie liberté. Amen. La vraie liberté, ça existe. C'est le plan de Dieu qui se réalise. Et parce qu'il nous veut libres. Amen. Libre à l'égard du péché, de cette vieille nature, de ses mauvaises tendances, ses mauvaises pensées. Tout cela va disparaître. Alors, quelles sont les qualités requise chez les fidèles? Je reprends et je fais toujours ce parallèle avec eh bien, ce que nous avons lu dans le livre des Chroniques. Les hommes de toutes les tribus ont établi David roi. Le texte mentionne de nombreuses qualités et on va voir qu'elles sont appelées à se développer chez nous, disciples, croyants du Nouveau Testament. Qu'est-ce qu'il nous est dit? Je prends une chronique, chapitre 12, verset 24, verset 33, verset 37. Il nous a dit qu'ils étaient armés pour la guerre. C'est-à-dire qu'ils étaient en état. Vous comprenez ce que ça veut dire? Hein? Ils étaient prêts à livrer bataille. D'accord? On ne pouvait pas les prendre au dépourvu. On ne pouvait pas les tromper. On ne pouvait pas prendre le dessus. Ils étaient prêts, armés, prêts à livrer bataille, en état. Alors l'Écriture révèle la réalité d'une guerre spirituelle. Vous savez que vous avez un adversaire? Eh oui. Satan, le chef des anges déchus, s'oppose et s'opposera toujours au plan de Dieu. Savons que la volonté de Dieu, c'est de sauver tous les hommes. Amen. Ça, c'est la volonté de Dieu. Alors, ses actions à lui consistent, à l'adversaire, bien sûr, à détruire, à ravager des vies, à accuser, à maintenir l'être humain dans l'esclavage, dans le péché, à l'amener à se salir. Vous voyez ? Ça, c'est le rôle de l'adversaire. Il y a l'Église. Il y a nous. L'Église d'Arles. Pas que. Parce que dans cette région, il y a de nombreuses églises, mais il y a l'Église. Cette Église, elle appartient au Seigneur. Elle est soutenue, elle est qualifiée par le Seigneur. Elle est mandatée également pour annoncer l'Évangile. Mais pas que. Elle est également mandatée pour guérir les malades, libérer les captifs, délivrer les personnes qui sont sous l'empire de la puissance des ténèbres. Et il agit, lui. Il n'a pas une demande d'autorisation. Lui, il agit. Amen. Alors le disciple qui marche dans les voies du Seigneur, eh bien, il a normalement compris son utilité. Il a compris également sa mission sur la terre. C'est d'abord être une lumière pour les perdus. Un point lumineux, un phare. Un phare dans la nuit. Également, il a compris qu'il faut tendre la main pour qu'il puisse la saisir. Saisir la vie. Amen. Nous avons la vie. Cette vie, nous devons la répandre. Et la vie éternelle, eh bien, elle est là. Ensuite, eh bien, nous sommes appelés à intercéder en leur faveur. Nous venons de prier. Mais il faudrait qu'il y ait des moments encore plus intenses de prière pour tous ces perdus. Amen. Nous le faisons à la maison, bien sûr. Hein. Néanmoins, eh bien, il s'agit d'être armé, si vous préférez d'être équipé, d'être prêt, de s'être préparé. Alors cela s'effectue lorsque justement, en tant qu'enfant de Dieu, nous nous affermissons dans la foi. Voilà que nous étoffons notre vie spirituelle. On ne peut pas vivre que d'expérience, mais néanmoins, nous avons besoin d'expérience pour, quelque part, fortifier notre foi. Pas seulement. la méditation de la parole de Dieu. Amen. Important. La prière, la communion avec le Seigneur va intensifier cette vie de l'esprit. La communion fraternelle également. Nous devenons une forteresse, une place imprenable pour l'ennemi. Tout ça, ça favorise l'action du Seigneur dans ce sens-là. Alléluia. Alors, Paul encourage à saisir, à manier les armes que Dieu met à la disposition de chaque enfant de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 20, vous lirez chez vous. Il explique justement en quoi consiste ce combat. Je dis, nous sommes des témoins, d'accord ? Donc nous devons quelque part témoigner. Lui-même en tant que serviteur de Dieu, et nous-mêmes pour quelques-uns, eh bien nous devons prêcher la parole de Dieu. Amen. Nous devons aussi prier afin d'amener, eh bien, par exemple, des interlocuteurs, vous savez, abandonner leur raisonnement. Oui, à l'amener à avoir une transformation de leur mentalité. Elle s'opposera bien sûr à la pensée divine. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une transformation de vie. Amen. Je ne parle pas d'un bourrage de crâne, mais je parle avec l'action de l'Esprit de Dieu. Quelque part, Dieu qui veut parler au travers de moi. Dieu qui veut faire de moi, quelque part, son porte-parole. Amen. Voilà que la position de cet homme a été verrouillée. Elle n'a pas bougé d'un pouce. Mais il y a l'action de l'Esprit. Et le Seigneur, puisque je suis ce combattant-là qui a trouvé prêt, hein, cet homme de la parole, bien sûr, eh bien, il va faire en sorte qu'il soit travaillé. Et puis si, par exemple, eh bien, il ne veut pas varier d'un pouce, est-ce qu'on va se fâcher avec ? On n'insiste pas. Hop, on n'insiste pas. On ne cherche pas à le convaincre à tout prix. Mais, puisque justement, on est appelé à livrer combat pour lui, eh bien, on va se mettre à genoux dans la prière. Amen. Et on va manipuler ce qu'on appelle l'arme de la prière à laquelle Dieu nous appelle à aller, à utiliser, à manier pour que justement les cœurs soient changés. Amen. Moi, je ne peux pas convaincre. Le seul qui peut convaincre, c'est l'Esprit de Dieu. Alors je vais m'atteler à cela, à la prière, utiliser cette arme. Alors il disait qu'ils étaient vaillants. Hein, Chronique, chapitre 12, verset 25, verset 28, verset 30. Le mot hébreu vaillant englobe certaines qualités. Je vous les livre là comme cela. Le courage, être brave, être honnête, capable, avoir des compétences, faire preuve de richesse, de fruits, de vertu, de puissance, eh bien, ils sont appelés à se retrouver chez nous, toutes ces vertus. Amen. Être vaillant. Le Seigneur exhorte justement à prendre courage dans la foi, à vivre de façon honnête, hein, ce que nous devons être, bien sûr, puis également à nous laisser qualifier et à recevoir eh bien, des capacités, des compétences, à manifester aussi les véritables richesses qui consistent, je dirais, à vivre une foi vivante. Amen. À pratiquer de bonnes œuvres, à porter le fruit de l'esprit, à montrer la vertu, justement, cette vertu à être rempli de la puissance de l'Esprit de Dieu. Amen. Est-ce que vous sentez capable de recevoir et de manifester également? Amen. Chronique 12, verset 28, nous parle de Tsadok. Tsadok, il était un vaillant jeune homme. L'Évangile s'adresse aux adultes, mais également aux jeunes. Amen. Ce n'est pas l'Église de plus tard. Hein. C'est l'Église d'aujourd'hui. Amen. Quelle richesse dans une Église quand il y a tous ces tranches d'âge. Formidable. Hein. Mais c'est ça. Alors Jésus, nous savons, a accueilli et il a béni les enfants. C'est lui qui a dit, laissez les petits-enfants, ne les empêchez pas de venir à moi. Car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Tiens, ressembler à un petit enfant. Vous savez, de dire cela, des fois, ça te dérange. Moi, bon, quand même, j'ai passé, hein. Je suis adulte. Mais si on avait la simplicité d'un petit enfant. J'avais un collègue de travail qui avait une maladie qui l'amenait à une dégénérescence dans son corps. Il aurait dû finir sur un fauteuil roulant ou tout au moins sur un lit, dans un lit donc médicalisé. On a pris donc Alexandre, tu te rappelles Marie, en colonie avec nous. Donc c'est leur fils. On l'a pris en camp de vacances, en camp d'hiver, en camp de ski, donc à Gap, à la Colo. Il savait que j'étais chrétien, hein, mais il nous l'a laissé. Et puis, ce petit enfant, savait que son papa était malade. Et puis, dans ses soirées, dans ses matinées avant de partir au ski, eh bien, il y a des moments de prière, il y a des moments de partage devant la parole de Dieu avec eux. Et puis, il a demandé à ce qu'on prie pour son papa. Il s'appelle Jean-Lucien. Eh bien, son papa a fini sa carrière de pompier professionnel. Aujourd'hui, il est à la retraite et il va régulièrement en Thaïlande faire de la plongée, voir ses fonds marins. J'ai dit, bon, il est resté en bonne santé. Hein. Vous voyez, Dieu a entendu la prière de ce petit enfant. Seigneur, guéris mon papa. Alléluia. Laissez venir à moi les petits enfants, parce que le royaume des cieux, il est pour ceux qui le ressemblent. Alléluia. Mais ce que je veux dire également, c'est une grande bénédiction de s'engager avec Jésus quand on est jeune. Eh oui, un jeune ne doit pas chercher à attendre des années avant de se donner au Seigneur. Ah ouais, on entend des jeunes, ils disent « Ah, laisse-le vivre, il a le temps. » Ouais, moi je crois pas. Et moi je me serais évité bien des désillusions, des souffrances, du mal. Vous savez, le plus tôt possible, c'est le mieux. Avec, je dirais, la pensée d'être utile dans les mains de Dieu. C'est ça. Les jeunes peuvent servir Dieu. Amen. Tsadok était jeune lorsqu'il a été initié à la fonction de sacrificateur. Vous vous rendez compte? Il n'est pas le seul. Hein? Josias, il a cherché l'Éternel et il a entrepris des actions pour la gloire de Dieu dans sa jeunesse. Vous connaissez un petit peu de Chroniques 34, verset 1er. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi. Il a régné 31 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il marcha dans les voies de David, son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. La 8e année de son règne, c'était pas vieux, hein? Il avait 16 ans. Comme il était encore jeune, il commença à chercher le Dieu de David, son père. Et la 12e année, il commença à purifier Juda, Jérusalem, des hauts lieux, des idoles, des images taillées, des images en fonte. On renversa devant lui les autels de Baal. Il a bâti les statues consacrées au soleil qui étaient dessus. Il brisa les idoles, les images taillées, les images en fonte et les réduisit en poussière. Il répandit de la poussière sur les sépulcres de ceux qui leur avaient sacrifié. Et il brûla les ossements des prêtres sur leur autel. C'est ainsi qu'il purifia Juda et Jérusalem. Dans les villes de Manassé, d'Éphraïm, de Siméon et même de Nephtali, partout au milieu de leurs ruines, il renversa les autels. Il mit en pièces les idoles, les images taillées et les réduisit en poussière. Et il abattit toutes les statues consacrées au soleil dans tout le pays d'Israël. Puis il retourna à Jérusalem. Il n'a pas attendu d'avoir de l'âge. Hein? Vous voyez? Il s'est rendu utile tout de suite. Amener quelque part un réveil dans la nation. Amen. David lui aussi était très jeune. Quand il va combattre qui? Eh ouais. Il a combattu, au nom de l'Éternel. Hein, je ne sais pas, mais fort, c'est comme il disait. Non, pas du tout. Hein. Au nom de l'Éternel. De la même façon, eh bien, il est possible justement de commencer à servir Dieu quand on est jeune converti. Amen. Oh, il faut qu'il ait pris un peu de la bouteille. Attends, quelques années. Non. Bon, tout de suite, j'étais mis au travail. Hein. Tout de suite, hein, il y avait des besoins dans l'église. Et il n'y avait personne pour répondre aux besoins. Le pasteur il m'a dit, allez hop, vous connaissez mon pasteur? Vous ne connaissez pas mon pasteur? Jean Verdier. Ça n'a pas tardé, hein? Eh oui, j'allais le voir pour lui dire, vous pouvez m'expliquer ça? T'as l'appel de Dieu? T'as le Seigneur? Débrouille-toi. Ben, j'ai grandi comme ça. Hein. Mais j'ai bien grandi, je trouve. Je ne sais pas. Hein. Parce que le Seigneur m'a béni, il a répondu à beaucoup de mes prières et il m'a ouvert le chemin, il m'a conduit jusqu'à présent. Amen. En tout cas, le Seigneur apprécie des jeunes, bien sûr, qui sont entrés dans le salut avec la vision d'être un instrument de bénédiction pour les autres. Amen. Le Seigneur apprécie cela. Alors, j'ai dit qu'également, ils ne sont pas laissés entraîner par le plus grand nombre. En Chronique, chapitre 12, verset 29. Hein. Les Benjamites, ils n'étaient pas très nombreux au départ hein, à suivre les partisans de David. Hein. En effet, il faisait partie de la tribu dont était issu justement le roi d'Israël, le premier, Saül. Vous voyez? Eh oui. Vous savez, des fois, on se laisse entraîner, mais on n'est plus dans le plan de Dieu. Donc, beaucoup ont fait cela. Alors, on sait une chose, c'est que Saül est devenu l'ennemi de David. La majorité d'entre eux, également, étaient devenus donc hostiles au roi David. À celui qui avait la promesse, bien sûr. Hein. Voilà que néanmoins, il y a quelques-uns qui vont se démarquer, vont le faire courageusement, parce qu'ils vont se décider de suivre celui que Dieu avait choisi. Amen. Eh oui. Vous savez, quand on veut vivre avec le Seigneur, quand on veut le servir, quand on veut le suivre, eh bien, on va avancer à contre-courant par rapport à la mentalité de ce monde dans lequel nous vivons. La majorité ici-bas marche dans les ténèbres et pas dans la lumière. Et c'est vrai que notre raisonnement, notre fonctionnement, eh bien, ne les touche pas. Ils sont complètement déconnectés de la réalité. Moi, quand je me suis converti, j'ai dit, mais je regardais autour de moi, j'ai dit, mais ils ne voient pas tout ce que Dieu fait. Ils ne voient pas. Mais ils ne le voyaient pas. Moi, je voyais, à mes yeux de nouveaux convertis, je disais, mais il leur faut. Ils devraient, allez, devraient demander au Seigneur, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il se débat? Pourquoi est-ce qu'il va avoir tel organisme, tel homme politique? Je lui fais. Vous voyez? Mais quand je me suis converti, je l'ai dit un jour, hein, il n'y a plus de grève, de manifestation à la caserne. Quand je voyais que quelque chose commençait à aller de travers, que ça commençait à chauffer, les esprits commençaient à s'échauffer, je priais. Et puis je voyais tout le monde être retourné, excusez-moi, comme une crêpe. J'aime les crêpes. Hein. Voilà. Mais oui, et ça c'est l'action de Dieu. À leur insu, parce qu'ils ne le savaient pas. Amen. Alors, quand on est enfant de Dieu, eh bien on s'expose parfois au rejet, au mépris, à l'indifférence. On va rencontrer l'opposition. Et c'est là qu'il faut manifester toutes ces qualités que nous avons vues au début. Amen. Parce que sinon, comment le Saint-Esprit pourra-t-il les travailler si justement nous emportons vis-à-vis d'eux? Est-ce que le Seigneur a été patient pour nous? Dites-moi. Pour vous. Moi, il a été patient, je peux vous le dire. Et il est encore aujourd'hui. Mais oui, il a été patient. Il le sera encore. Amen. Un chrétien peut être seul dans sa famille, être converti, seul dans son entreprise. J'étais pompier professionnel, je vivais 24 heures en collectivité, je peux vous dire ce que c'est pas facile. La pression, elle est là. Pression, l'état d'esprit qui nous environne, souvent, elle est très forte. Ça vient brusquement, c'est pour nous déstabiliser. Mais je suis un enfant de Dieu. J'ai reçu ses qualités. Amen. Je ne vais pas me laisser séduire, ni quelque part pour... Aller pour la paix, me laisser entraîner. Non, pas du tout. Je suis le Seigneur. Alléluia. Il ne s'agit pas non plus de se laisser entraîner, mais de manifester de la fermeté, de rester fidèle. Amen. Et il le faut. Je lui appartiens entièrement. Je n'ai pas laissé introduire en moi quoi que ce soit, me mettre de nouveau sous un joug. J'ai été affranchi, j'ai été libéré. Amen. Certains sont qualifiés, 1 Chronique 12-30, Jean de renom. Ce passage mentionne, je dirais, d'une manière favorable, leur bonne renommée. Alléluia. Qu'est-ce que j'ai comme renommée? Qu'est-ce qu'on dit de moi? Eh oui. Par exemple, si un croyant vit comme tout le monde, si on ne voit pas la différence entre lui et les autres, eh bien voilà que la lumière de l'Évangile, eh bien elle est bien fade. Elle ne luit pas comme elle devrait luire. Mon témoignage, il n'est pas si brillant que ce qu'il devrait être. En tant qu'enfant de Dieu, je suis déterminé à suivre Jésus. Je dois apprendre à veiller sur ma vie, mon comportement, mes paroles, sur mon témoignage, afin d'avoir justement une bonne réputation d'être, je dirais dans la mesure du possible, quelqu'un dont on dit, tu sais lui. Même si on ne nous aime pas. Moi, je l'ai entendu. Lui, c'est quelqu'un de comme ça. Tant je ne l'aime pas. Je ne peux pas le voir. Écoute, il est droit. Ce qu'il dit, il le fait. S'il te dit, mais c'est que c'est vrai. Amen. C'est important. Et oui, des gens de parole, honnêtes. Nous sommes invités, bien sûr, à nous démarquer en manifestant eh bien, les qualités du Seigneur. Par exemple, l'amour au lieu du mépris. L'accueil au lieu du rejet. L'équilibre, je dirais, au lieu des excès. La sainteté au lieu de la souillure. La retenue, la modération au lieu de l'emportement. C'est plus fort que moi, c'est mon caractère, on ne me changera jamais. Ouh ! J'ai entendu de la part de chrétiens. J'ai entendu de la part d'enfants de Dieu. C'est pas normal. C'est pas normal. Où est cette vie qui va se développer en nous, la vie de Christ ? Où est-ce qu'elle est ? Certains également avaient du discernement. Ils savaient, ou ils avaient, comme il est dit dans Chronique 12, verset 32, l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Une autre version précise, ils savaient discerner les moments où Israël devait agir à la manière de le faire. Et la manière de le faire. Mais Dieu parle. Quand on est en communion avec lui, Dieu nous avertit. Moi, il m'est arrivé, je ne vais pas mettre en avant, mais il m'est arrivé d'entendre la voix me dire à la fin de la réunion, tu as un gars qui va venir te chercher des noises. Et j'étais en voiture, j'allais vers le culte. J'étais dans le col, et dans le col, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai pas du tout fini de dire Amen à la fin du culte qu'il se levait et puis il venait me chercher des noises. Je dis, mais Seigneur, tu m'as parlé? Vous voyez, il y a des moments où, s'il me disait, justement, c'était pour me méfier, pour pas que j'embraye dessus. Vous comprenez? Il y a un témoignage à rendre. Le serviteur de Dieu ne doit pas avoir des querelles, par exemple. Vous voyez? Alors, un chrétien qui a l'habitude de développer sa communion avec le Seigneur, mais il va grandir sous la conduite de l'Esprit de Dieu. Il va discerner, justement, le moment où il doit agir. Et le moment où il doit s'abstenir de le faire. Et au moment où le Seigneur m'a dit, hop, tu arrêtes. Tu laisses faire. Tu me laisses faire. Eh bien, il faut laisser faire. Amen. Il va nous montrer également le moment où nous pouvons parler, le moment où il est préférable de se taire. La façon également qu'il va employer, agir, pour agir comme il sait si bien le faire. Amen. Vous savez, nous avons un grand pédagogue, hein. Il parle mieux que nous, hein. Il enseigne mieux que nous. Hein. Parce qu'en plus de ça, il sait le faire d'une manière particulière à chaque oreille, à chaque cœur. Amen. Alors voyez, ce passage, c'est un encouragement pour tout enfant de Dieu d'abord à rechercher cette communion avec le Seigneur, à rechercher le baptême dans le Saint-Esprit, afin de pouvoir exercer les dons spirituels avec, une sensibilité affinée. Vous voyez ? Ce n'est pas le rouleau compresseur. Le Seigneur nous respecte. Amen. Quand nous avons un bon état de cœur, il sait. Quand nous sommes plutôt en délicatesse, il sait aussi. Et il n'agit pas de la même manière. Amen. Alors pour avancer, l'Église a besoin, je dirais, d'avoir en son sein des hommes et des femmes inspirés qui perçoivent justement la direction de l'Esprit pour la communauté. Amen. C'est dans la communion, dans la recherche, dans la présence du Seigneur. Amen. Ils avaient un cœur résolu, nous l'avons lu. Une réelle sincérité, hein, lorsqu'ils voulaient eh bien, que David devienne le roi sur tout Israël. Alors, il y a là quelques synonymes hein, de résolution. Ils sont là, des synonymes. Détermination, fermeté, opiniâtreté, audace, énergie, volonté et pouvoir mettre d'autres. Moi, je me suis arrêté là. Amen. Alors nous savons, bien sûr, que naturellement l'être humain est capable d'être tenace. Non ? Quand il faut satisfaire nos désirs, on ne se donne pas les moyens, dites-moi. Mais bien sûr. Alors à plus forte raison, tu dirais qu'en tant que disciples de Jésus, nous sommes invités à manifester toutes ces qualités. Nous le pouvons. D'accord ? Nous devons vivre la parole de Dieu. Ne pas nous contenter de l'écouter, mais justement de rechercher de tout notre cœur la face de Dieu. C'est cela, hein, de préférer les choses d'en haut plutôt que celles qui sont sur la terre. Je dois servir le Seigneur du mieux que je peux. Je vais le faire avec foi. Je vais le faire avec amour. Amen. Et si je... Allez, quelque part, la résolution est encore là, hein, pour cette année. C'est encore au mois de janvier. Hein. Eh bien, il faut que je m'engage sur ce chemin. Amen. Et vous relirez un petit peu tout cela. Je ne sais pas si c'est enregistré. Oh, c'est enregistré, vous pouvez l'écouter à nouveau. Parce qu'on dit beaucoup de choses en peu de temps. Hein. Je me suis rendu compte en t'écoutant. Quand on est pasteur, on prêche. Mais après, quand on est à côté, et puis je dis, mais finalement, on en dit des choses en peu de temps. Il me semble que j'ai loupé quelque chose là. Allez, on peut revenir. Tiens, hop, on réécoute. Amen. Ça fait du bien. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Mais de tout cœur, engagez-vous. Hein? Engagez-vous, préparez-vous, armez-vous. Et soyez, allez, en état, comme on dit. Amen. Que Dieu puisse se réjouir, que Dieu puisse se glorifier au travers de son esprit. Seigneur, merci.